Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas ? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce jeudi 8 décembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. Restrictions américaines sur les exportations visant 24 entreprises sous divers prétextes liés à l'Iran et à la Russie. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, slogan de liberté, le peuple iranien n'est pas dupe, déclaration du président Raïsi devant le peuple de Rebat Karim, près Téhéran. Sanctions contre Press TV, l'Iran dénonce l'hypocrisie occidentale sur la liberté d'expression. Et puis, pétrole, l'Iran et le Tadjikistan vers une coopération encore plus élargie. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président de la République islamique d'Iran, Seyed Ebrahim Raïsi, déclarant que le peuple iranien n'est pas dupe du slogan de la liberté scandé depuis l'Occident, a déclaré que les Iraniens ont trouvé la liberté dans la révolution du février 1979. L'ennemi ne tolérait pas de nous voir sur le point du progrès où nous sommes arrivés. Il ne voulait pas de notre vitalité sociale, de notre liberté et de notre progrès. Regardez la situation en Afghanistan. Il y a 35 000 enfants handicapés en Afghanistan. Il veut le même récit pour l'Iran, a-t-il prévenu. Et d'ajouter, nous n'avons pas d'autre voie qu'avancer et enregistrer des progrès, et ces progrès met l'ennemi en colère. L'ennemi est en colère car il nous a sanctionnés, mais a fini par avouer l'échec humiliant de ces sanctions. Ils n'ont pas pu concrétiser leur embargo sur notre pétrole. Nous voilà aujourd'hui en pleine sanction, nous exportons plus qu'avant. La balance commerciale du pays est passée de négative à positive, a fait remarquer le président Raïsi à l'occasion d'un discours ce jeudi 8 décembre devant un groupe de responsables et d'habitants de la région de Rebat Karim, près de Téhéran. Sanctions contre Press TV, la chaîne anglophone iranienne, l'Iran dénonce l'hypocrisie occidentale sur la liberté d'expression. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement la décision de l'opérateur européen de satellites Eutelsat de retirer la chaîne d'information anglophone iranienne Press TV. Nasser Kanani a déclaré que cette décision démasque une fois de plus le vrai visage des prétendus défenseurs de la liberté d'expression et de la libre circulation de l'information. Le diplomate a ajouté que si l'Europe héberge des chaînes de télévision qui fomentent la violence et le terrorisme en Iran, elle retire Press TV de Telsat en raison des sanctions de l'Union européenne contre la chaîne. Ces remarques sont intervenues après que Telsat a averti Press TV qu'il retirerait le diffuseur des ondes. La chaîne Presse TV a fermement condamné la décision de Telsat, reprochant à l'Union européenne d'être à l'origine de cette décision partiale et politisée. Pour la chaîne anglophone de Presse TV, cette décision fait partie des tentatives continues de l'Occident visant à faire taire la voix du peuple iranien. Elle a également critiqué les doubles standards de l'Occident en matière de liberté d'expression. Néanmoins, Presse TV affirme qu'elle continuera à tout mettre en œuvre pour rester la voix des sans-voix. Ce n'est pas la première fois que les gouvernements occidentaux tentent de bloquer les réseaux d'information iraniens, le site web de la chaîne, le compte YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux ont déjà été ciblés à plusieurs reprises. Le mercredi 8 décembre, le gouvernement américain a ajouté le nom de 24 entreprises à sa liste de contrôle des exportations sous prétexte de soutenir le secteur militaire et de défense de la Russie, les activités nucléaires du Pakistan et de fournir des pièces à une entreprise iranienne. Le département américain du commerce a accusé ces entreprises de travailler à des fins allant à l'encontre de la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis. La liste comprend des entreprises de la Russie, des Émirats arabes unis, du Lettonie, du Pakistan, du Singapour et de la Suisse. Parmi les organisations russes, 10 entreprises dont Roselectronik, Milander et Milver figurent sur cette liste. Pendant ce temps, les données publiées par l'US Census Bureau montrent que les importations de Washington en provenance de Russie en octobre ont plus que doublé par rapport au mois précédent. Selon les rapports, les données du Bureau américain de recensement montrent que l'importation de marchandises russes aux États-Unis a plus que doublé en octobre et atteint la valeur de 732,4 millions de dollars. Le ministre iranien du pétrole, Javad Oji, a rencontré et s'est entretenu avec le ministre tadjik de l'énergie et des ressources en eau, Daler Dumin, à Téhéran. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale dans les domaines de l'exportation de pétrole, de condensats de gaz et de produits pétroliers, ainsi que de produits pétrochimiques. L'exploration et l'extraction depuis l'Iran vers le Tadjikistan, les services techniques et d'ingénierie, ainsi que la reconstruction et la modernisation des raffineries de pétrole du Tadjikistan, figuraient parmi les autres sujets abordés par les parties. Les délégations iraniennes et tadjiques ont également tenu des réunions d'experts, la 15e édition de la Commission mixte de coopération économique Iran-Tadjikistan s'est achevée mardi soir à Téhéran. Rossam Rossemi, l'ancien ministre iranien des routes et du développement urbain, est décédé ce jeudi matin après avoir enduré une période de maladie. Diplômé de l'Université de technologie de Sharif, étudiant en génie civil, et l'ancien ministre des routes et de l'urbanisme, était l'une des figures remarquables et reliques de l'époque de la défense sacrée, guerre imposée de l'Irak de Saddam à l'Iran. L'année dernière, et quelques mois après sa nomination au poste du ministre, des symptômes de maladie se sont apparus en lui, mais il suivait ses fonctions de toutes ses forces tout en commençant le traitement. Sa maladie s'est pourtant aggravée depuis les deux derniers mois, le poussant à présenter sa démission au président Raïssi. La progression de la maladie cancéreuse a été telle que le traitement n'a pas été efficace. Il s'éteint tristement ce jeudi matin, mettant en deuil sa famille et tous ses amis. Il a laissé derrière lui un parcours brillant et fier, tant au sein du ministère des Routes et du Développement urbain que dans ses nombreuses responsabilités antérieures, au sein du ministère du Pétrole, de la base de défense de Khatam al-Anbiya et en soutenant le fier mouvement de la résistance. L'actualité internationale avec le Yémen, le leader du mouvement de la résistance yéménite Ansar Allah, affirme que l'objectif principal de l'ennemi est de corrompre la jeune génération yéménite au moyen d'attaques contre les valeurs islamiques, soulignant que les États-Unis et leurs alliés sont déterminés à faire plier la nation yéménite par la domination culturelle. Mercredi 7 décembre, Abdulmalik al-Houssi a fait ses remarques lors d'une cérémonie dans la capitale yéménite, Sanaa, à l'occasion de la Journée nationale des martyrs. Le monde musulman ne connaîtra jamais la victoire, l'honneur, la croissance ou la prospérité tant que ces peuples ne seront pas prêts à faire des sacrifices et à faire preuve d'un véritable engagement, a déclaré le leader du mouvement de la résistance populaire yéménite. Al-Houssi a également mis en garde contre la myriade de complots ourdis par les ennemis en vue de saper la nation yéménite et a appelé la population, toute couche confondue, ainsi que les dirigeants du pays à rester vigilants face à la guerre douce menée contre l'État arabe, notamment dans les domaines culturels et intellectuels. Al-Houssi a averti que les ennemis cherchent à affaiblir les valeurs islamiques et interprètent mal la notion de martyr. Ils consacrent beaucoup de temps et d'efforts à corrompre les jeunes yéménites, a-t-il averti. Direction la France, lors d'un dîner mercredi à l'Élysée, le président français a acté que sa réforme contiendrait un report de l'âge de départ à 65 ans et passerait par un texte budgétaire. Deux mois et demi après un premier échange en haut lieu consacré au dossier miné des retraites, Emmanuel Macron a de nouveau convoqué ministres et parlementaires de sa majorité pour un dîner à l'Élysée mercredi soir afin d'acter une stratégie pour faire aboutir sa réforme explosive. Les Françaises et les Français doivent se préparer à l'idée de travailler jusqu'à 65 ans. Le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 65 ans a été confirmé par Emmanuel Macron mercredi soir à l'Élysée. La réforme sera officiellement exposée en Conseil des ministres en janvier 2023. Elle sera ensuite intégrée dans un projet de loi des finances de la sécurité sociale rectificative au menu de l'Assemblée en début d'année, un choix assumé qui permettra au gouvernement de brandir l'article 49.3 pour faire adopter le texte sans vote des députés. Le recul de l'âge de départ à la retraite à 65 ans va forcément faire des remous au sein des syndicats et dans une partie de l'opinion publique. Les syndicats ont tenu une première réunion au siège de la FSU en début de semaine. Une mobilisation unitaire avec grève et manifestation est sérieusement envisageable. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Restrictions américaines sur les exportations visant 24 entreprises sous divers prétextes liés à l'Iran et à la Russie. L'administration de Joe Biden a ajouté 24 entreprises à sa liste de contrôle des exportations sous prétexte d'être liées à l'Iran, à la Russie et au Pakistan. Mercredi 8 décembre, heure locale, le gouvernement américain a ajouté le nom de 24 entreprises à sa liste de contrôle des exportations sous prétexte de soutenir le secteur militaire et de défense de la Russie, les activités nucléaires du Pakistan et de fournir des pièces à une entreprise iranienne. Le département américain du commerce a accusé ces entreprises de travailler à des fins contraires, selon ses mots, à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis. La liste comprend des entreprises de Russie, des Émirats arabes unis, de Lettonie, du Pakistan, de Singapour et de Suisse. Parmi les organisations russes, 10 entreprises, dont Rosselectronik, Milander et Milver, figurent dans la liste. Pendant ce temps, les données publiées par le Bureau américain du recensement montre que les importations de Washington en provenance de Russie en octobre ont plus que doublé par rapport au mois précédent. Selon les rapports, les données du Bureau américain du recensement montrent que l'importation de marchandises russes aux États-Unis a plus que doublé en octobre et a atteint la valeur de 732,4 millions de dollars. Ce chiffre d'octobre est le plus élevé par rapport aux 5 derniers mois. Les importations américaines en provenance de Russie en juin valaient 661,1 millions de dollars. En juillet, elles valaient 484,4 millions de dollars et en août, 522,1 millions de dollars, alors que cette importation a diminué à 332,1 millions de dollars en septembre 2022, soit la valeur d'importation la plus faible depuis janvier 2002. En revanche, les exportations de produits américains vers la Russie sont passées de 90,4 millions de dollars en septembre à 80,1 millions de dollars en octobre. Par rapport aux chiffres de janvier, les exportations américaines vers la Russie ont diminué de 316,8 millions de dollars. Le groupe des sept a fixé lundi un plafond sur le prix du pétrole brut russe exporté par voie maritime afin de limiter la capacité de Moscou à financer son opération militaire en Ukraine, mais Moscou a déclaré qu'il n'accepterait pas cette décision même s'il est contraint de réduire sa production. Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et diplomate de haut rang de son pays, a comparé mardi les tentatives des États-Unis et des pays européens pour imposer des restrictions sur le prix du pétrole russe à couper la branche sur laquelle ils sont assis.
Bonjour à tous, bienvenue ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet dont on va débattre est le sujet de la Chine et de la Russie, leur rapprochement notamment économique. Comme le veut le modèle du débat, nous avons préparé un reportage et par la suite nous accueillerons nos invités. Je vous propose donc de regarder notre reportage.
Un plafond de prix imposé par les pays du groupe des 7 sur le pétrole transporté par la Russie est entré en vigueur. Ceci alors que l'Occident tente de limiter la capacité de Moscou à financer son opération militaire en Ukraine. L'activation d'un plafonnement coïncide avec l'entrée en vigueur d'un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe acheminé par voie maritime plusieurs mois après l'embargo déjà décidé par les États-Unis et le Canada. Adopté par l'Union européenne, les pays du G7 et l'Australie, le plafonnement des prix du pétrole russe, qui doit entrer en vigueur à partir de lundi, vise à restreindre les revenus de la Russie, tout en s'assurant qu'elle continue à alimenter le marché mondial. L'Union européenne a également interdit toutes les importations de brut maritime en provenance de Russie. C'est en plus d'une limite similaire de 60 dollars que le bloc a imposé au pétrole russe. Les mesures prises par l'Union européenne et le G7 signifient que les pays tiers ne peuvent pas utiliser leurs pétroliers, leurs compagnies d'assurance et leurs établissements de crédit si la cargaison est vendue à un prix supérieur au plafond désigné. En réponse, la Russie déclare qu'elle ne vendra pas son pétrole aux pays qui appliquent le plafonnement des prix. Pour Moscou, les agissements occidentaux sont à blâmer car ils sont à l'origine du déséquilibre actuel des marchés de l'énergie. Selon Moscou, plafonner le prix du pétrole russe mènera à un déséquilibre sur le marché et à une hausse des prix que devront payer les consommateurs européens. Dimanche, les pays exportateurs de l'Alliance OPEP+, dont la Russie, ont décidé de ne pas modifier leurs objectifs de production.
Revoilà sur le plateau. Donc le sujet, donc, vous l'avez compris, c'est notamment les coûts de pression économiques de la Russie face à la demande énergétique. Nous allons accueillir donc nos invités. Notre premier invité que nous accueillons est Monsieur Philippe Hugon, donc reporter de guerre, journaliste. Bonjour Monsieur Philippe Hugon.
Bonjour à toute l'équipe. Oui, alors, en ce qui concerne ces mesures de rétorsion de la Russie, je dirais que c'est une arme utilisée qui est extrêmement dangereuse, à la fois pour l'Union européenne, mais également pour la Russie. Alors, on sait aujourd'hui que l'Union européenne se tourne de plus en plus vers d'autres pays producteurs, et de façon à ne pas payer un prix du baril qui soit exorbitant. Alors je dis que c'est dangereux parce que bien, la situation en Europe économique est déjà très difficile, donc ça nécessite de trouver d'autres fournisseurs à des prix qui soient relativement intéressants au niveau du prix du baril, bien sûr, mais c'est également extrêmement dangereux pour la Russie, puisqu'elle risque de se passer d'une manne financière très importante. D'autant plus que la situation économique en Russie est vraiment très délicate actuellement. Et je trouve que cet enjeu est extrêmement dangereux. Vous savez, l'économie mondiale, c'est un peu comme une coquille d'œuf. C'est à la fois rigide, mais extrêmement fragile. Donc on va fragiliser une situation qui l'est déjà beaucoup, et ça risque de provoquer de grands déséquilibres dans les mois qui viennent, aussi bien au niveau économique, mais au niveau financier, bien sûr, au niveau des approvisionnements, où l'on risque d'avoir des trous, si je peux m'exprimer ainsi, et d'avoir des problèmes à la pompe pour les automobilistes. Donc, c'est vraiment le pire des scénarios qu'on peut envisager, c'est que la Russie se radicalise et pose un gros problème au niveau global, au niveau de l'économie globale.
En effet, on parle d'énergie, on a souvent parlé d'énergie ces derniers temps, le prix à la pompe également, mais il y a d'autres matières premières qui se font désirer. J'ai envie de penser aux médicaments. Plusieurs pays européens ont dit qu'ils vont se retrouver à court d'antibiotiques. Il y a également les antidouleurs pour enfants. Ce sont des faits, c'est beaucoup plus global cette crise avec la Russie et l'Ukraine.
Ah ben tout à fait. De toute façon, quand on parle de problèmes d'économie en ce qui concerne la Russie, ça va toucher non seulement bien sûr les problèmes de l'énergie par le biais du gaz et du pétrole, mais ça va également poser des problèmes non seulement comme vous le disiez au niveau des médicaments, mais également sur un plan alimentaire, hein, puisqu'on sait que beaucoup de céréales étaient achetées en Ukraine. Donc ça va créer un gros déséquilibre et ça peut amener certains États à prendre des décisions aussi radicales que prennent la Russie. En avons-nous les moyens aujourd'hui ? Non, on n'a pas les moyens aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut trouver des situations, des solutions qui soient globales au niveau de l'Europe, de façon à pouvoir nous garantir des approvisionnements réguliers et importants. Maintenant, de la part de la Russie, ce conflit avec l'Ukraine est une très mauvaise stratégie de la part de la Russie. C'est de très mauvaises solutions employées. Vous savez, la guerre est toujours une mauvaise solution.
Est-ce qu'elle a vraiment eu le choix ? Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que les tensions montent aux alentours des frontières. Si on se rappelle bien, le Donetsk et les parties russophones de l'Ukraine étaient quand même sous les bombes. On parlait de 2000 bombes alors que rien n'était mentionné dans les médias internationaux concernant les bombes qui tombaient sur encore des civils. On ne parle pas de milices, on ne parle pas... cette partie-là de l'Ukraine était même sans charbon en hiver. Là, on entend parler des médias où Kiev est sans électricité, Kiev va mourir de froid, mais c'est ce qui se passait dans le Donetsk, c'est ce qui se passait dans les territoires russophones en Ukraine, et pourtant personne n'en mentionnait. Est-ce que vraiment la Russie, elle n'a pas eu d'autre choix que finalement se dire bon, on va se lever parce qu'il faut faire quelque chose, il faut mettre fin à cette situation ?
Ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La Russie n'avait peut-être pas le choix dans le sens qu'elle voulait imposer un certain nombre de choses pour retrouver une situation plus normale. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens meurent pour de mauvaises raisons, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Et malheureusement, c'est une situation inextricable, mais je pense malgré tout qu'il fallait trouver des solutions sur un plan diplomatique pour éviter ces milliers de morts. Et que la Russie veuille défendre sa partie russophone, je l'admets tout à fait, mais je pense qu'il y avait d'autres solutions. Moi, c'est le nombre de victimes qui sont déjà plus là, et le nombre de victimes à venir qui vont être très importantes.
C'était les conclusions du G20 d'ailleurs, si je me trompe pas. Les conclusions du G20, c'est que certains comprenaient la Russie mais étaient contre le conflit ukrainien.
Ah, tout à fait. Moi, je pense que d'une manière générale, la guerre est jamais une bonne solution, puisque ça tue des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'innocents. Et je pense que c'est un véritable problème aujourd'hui sur un plan humain. Et surtout tout ce qui va en découler, c'est-à-dire toutes les décisions prises aujourd'hui et toutes les actions qui se passent actuellement vont déboucher sur une situation qui va être inextricable. Et à la fin de ces problèmes-là, tout le monde aura été perdant, aussi bien sur le bilan humain, sur le bilan alimentaire, sur le bilan économique, sur le bilan financier, sur le bilan industriel, tout le monde va perdre. Et malheureusement, je pense que la guerre est la plus mauvaise des solutions. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se régler si chacune des parties avait fait un petit peu un pas en avant de façon à garantir la paix et de trouver des solutions qui soient vraiment pérennes pour l'avenir. Alors, je ne condamne pas la Russie sur ses idées de vouloir reconquérir et protéger ses populations. Moi, je condamne la guerre et ses milliers d'innocents qui meurent tous les jours.
Et que pensez-vous ? Vous êtes à Paris vous-même. J'imagine que la morosité est extrêmement présente parce qu'on ne fait que dire que les mauvais jours sont en train d'arriver. Quelle est l'ambiance générale à l'heure actuelle en France par rapport et au fait que ce soit directement lié, enfin c'est comme ça que les médias le présentent, que ce soit directement lié au conflit ukrainien. Quelle est la situation à l'heure actuelle en France par rapport à ça ?
Moi, je pense que les médias ne disent pas la vérité d'une manière générale, ou du moins embellissent la vérité de façon à ne pas se mettre en porte-à-faux. Donc, on ne peut absolument pas compter sur les médias pour porter une situation qui soit juste. Ça, il faut pas se faire des illusions, et c'est pas spécifique au conflit ukrainien, c'est de partout dans le monde, hein. Dans tous les endroits où on a des conflits, on s'aperçoit que la vérité n'est jamais connue, ou du moins elle est connue des années et des années plus tard. Ce qui est extrêmement triste, c'est le bilan humain, le bilan économique, et qui va marquer toutes ces populations pour des générations, hein. Enfin, pour des dizaines d'années, puisque les conséquences vont être terribles dans les années qui viennent, hein, au niveau alimentaire notamment, au niveau de vie des gens qui subissent ces conflits, c'est absolument terrible. Et ne comptons pas sur les médias pour apporter les chiffres exacts ou décrire une situation qui soit juste.
Oui, parce que en fait, là, à l'heure actuelle, l'Europe vit sur ses stocks, donc il n'y a pas une véritable répercussion. À part peut-être l'inflation, les chiffres qui augmentent, les salaires qui bougent pas. Est-ce que vous avez entendu les Français en être préoccupés ? Je parle des citoyens français, je parle pas forcément des médias.
Oui, ben moi je pense que les citoyens français se rendent pas tout compte des choses. Ils commencent à peut-être faire un petit peu la tête voyant la description de la situation, et c'est un véritable problème pour et pour les médias, pour les gens, pour... Vous voyez, moi, je réside en Suisse actuellement, eh bien, je dois dire que beaucoup, beaucoup de gens sont inquiets de la situation. Maintenant, il va falloir trouver cette solution. Eh bien, cette solution, elle n'a pas été trouvée, et elle ne sera pas trouvée tout de suite. Il va falloir que les partis se trouvent dans une obligation de gestion et de réaction face à ces situations nouvelles, et ça va poser un véritable problème à la communauté internationale et à la communauté européenne plus en particulier, pour régler ce problème.
Alors, on a vu des rapprochements extrêmes, d'un point de vue économique, je veux dire, entre la Russie et la Chine, des symbolisations de leur rapprochement. J'ai envie de parler du fait qu'un avion se soit posé sur un autre territoire entre la Russie et la Chine. On a également les rumeurs qui disent, et des informations un peu plus précises qui disent qu'ils cherchent à créer une nouvelle monnaie, un nouveau système SWIFT. Tout ça laisse à croire que non seulement il y a polarisation des pouvoirs, mais qu'en plus des mondes vont complètement être divisés, puisque s'il n'y a plus de connexion entre des mondes, ce sont des mondes dans ce même monde qu'est le globe terrestre qui vont se créer. Est-ce que vous n'avez pas peur que les divisions soient encore plus conséquentes, puisqu'il y aura forcément des pays, comme les sanctions, ce qui est provoqué par les sanctions, il y a forcément des pays qui vont être rejetés par ce modèle?
Ah mais tout à fait, moi je pense que à ce moment-là on va créer une grande scission et on assistera à la création de mondes différents, enfin soi-disant différents, avec des valeurs un peu différentes. Donc ça, c'est la pire des choses, c'est la scission qu'il peut y avoir entre les États. Malheureusement, quand on voit l'intolérance de certains États et les malversations que réalisent certains États par rapport à un grand nombre de pays aujourd'hui, eh bien on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à la création de conflits locaux qui perturbera non seulement l'économie, mais également la progression des idées qui pourrait apporter un certain équilibre. Donc ceci est une politique extrêmement dangereuse et je pense que ça va être le problème du 21e siècle, ça va être ça, éviter ces divisions et essayer de contenter tout le monde. Maintenant, il faut que toutes ces grandes puissances mondiales, qu'elles soient côté américain ou côté russe, eh bien apprennent un peu l'humilité et apprennent la compréhension de façon à éviter qu'il y ait de scissions qui s'effectuent, et de scissions non seulement nombreuses, mais de très grandes scissions, qui aboutira forcément à des conflits d'intérêts, et qui dit conflit d'intérêts dit également conflit armé par l'intermédiaire de petits groupes ou de pays qui n'attendent que ça, de se battre pour récupérer une partie du terrain, pour récupérer certains acquis qui leur ont été supprimés. Donc on va assister à une très grande instabilité dans les années qui viennent si l'Union européenne et l'ONU et les États-Unis et la Russie ne jouent pas la carte de la transparence et surtout la carte de la paix.
Merci à Monsieur Phil Bougon. Nous accueillons donc notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel. Bonjour, Monsieur Luc Michel.
Bonjour, bonjour à votre équipe et bonjour à Monsieur Hubon. Moi, je ne pense pas que la solution est du côté des institutions, soit dit internationales et de l'ONU, mais je crois surtout que l'Iran et la Russie doivent achever de dynamiter le nouvel ordre mondial de 1921. Qu'est-ce qui se passe avec le pétrole? Eh bien, tout simplement, les dirigeants européens ont été qualifiés d'idiots, irresponsables par l'ancien président russe Medvedev. Ils ont oublié la règle fondamentale de l'économie, c'est-à-dire que c'était l'offreur qui fixe les prix. Et ils voudraient bloquer les prix russes. En réalité, ils vont simplement achever de déséquilibrer le marché mondial de l'énergie. Ils vont achever les pénuries et ils ne vont pas du tout pénaliser la Russie. Au contraire, ils vont achever de précipiter l'Union européenne dans le chaos. Les Russes, qu'est-ce qu'ils vont faire pour combattre cela? Tout d'abord, ils vont, comme ils l'ont dit, arrêter de livrer les pays qui veulent plafonner le prix du pétrole. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pétrole russe en Occident. Secondement, ils sont en train de constituer ce que les Occidentaux appellent des flottes de pétroliers fantômes. Ils rachètent tous les pétroliers disponibles sur le marché mondial pour acheminer le pétrole. et avec l'aide de l'Iran et du Venezuela, ils vont appliquer le mécanisme de contournement des sanctions. Enfin, ce qu'on appelle l'OPEP+, c'est-à-dire les alliés de la Russie et de l'Arabie Saoudite, évidemment, soutiennent la Russie dans cette affaire. La Chine et l'Inde également. Donc l'Occident va perdre. Le président des armateurs grecs, qui représente 80% des tankers en européen, a dit que l'Europe se tirait de nouveau à un coup de pistolet dans le pied. C'est la vérité. Les dirigeants de Bruxelles sont des idiots irresponsables.
Merci Luc Michel. Alors, c'est ce qu'on est en train de dire avec Monsieur Philippe Hugon, le fait qu'en fait, la Chine et la Russie sont en train de construire un nouveau monde, un monde avec une nouvelle monnaie, un monde avec un nouveau système SWIFT. La Russie, des experts russes ont également exprimé le fait qu'il fallait créer des assurances pour faire en sorte que les bateaux et les ports acceptent les marchandises des pays qui sont sous sanctions occidentales, parce qu'à l'heure actuelle, il existe très peu d'assurances qui permettent ces voyages. Finalement, on peut avoir le bateau, on peut avoir des pays intéressés par la marchandise, mais si aucune assurance n'assure ces marchandises, les marchandises ne peuvent pas sortir des ports. Donc c'est tout un nouveau système qui est en train d'être construit, parce que ces systèmes-là étaient construits par les pays qui ont créé la mondialisation, donc les pays qui ont créé la colonisation, la mondialisation et ce qu'on connaît de l'histoire de la mondialisation. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est la fin de la mondialisation ?
C'est la fin, tout à fait. C'était d'ailleurs l'objectif second en Ukraine de Poutine. Ce n'était pas seulement de récupérer le Donbass, c'était de dynamiter le nouvel ordre mondial géopolitique américain de 1991 et dynamiter l'économie qu'on appelle la globalisation. Depuis 2015, notre pays, l'Iran, avec le Venezuela, a mis au point des mécanismes pour supplier les assurances, banques de pétrole, etc. Et donc, ils vont apporter leur expérience à la Russie. Les États-Unis ont dit que l'Iran était l'épée géopolitique de la Russie dans le domaine des hydrocarbures. C'est ce que je pense.
Il n'y a pas que seulement les hydrocarbures. D'ailleurs, M. Philippe Hugon avait confirmé, il n'y a pas, avec la Russie et l'Ukraine, il n'y a pas que les hydrocarbures. On entend à partir de l'Europe et dans plusieurs pays un manque de médicaments, de matières premières pour les laboratoires de médicaments. Ce sont toutes des denrées qui sont assez rares, qu'on ne peut pas trouver partout ou que seulement produits par certains pays qui en ont fait une spécialisation. Si vous estimez que la mondialisation va se finir, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver ? Est-ce que ce sera deux mondes dans un monde ?
Il y aura deux blocs qui vont s'opposer. Il y aura le bloc américano-occidental qui représente moins de 20% de la population mondiale et qui a son pendant économique avec le G7. Et il y aura un bloc du monde multipolaire avec Téhéran, Moscou, Pékin et les Africains progressistes, évidemment. L'histoire retiendra que ce sont les Américains eux-mêmes qui ont dynamité la globalisation en voulant imposer des sanctions à la Russie, à l'Iran, au Venezuela. Ils ont détruit les mécanismes même de leur système économique mondial et ils contribuent à dédollariser le monde. Il n'y a pas bien entendu que le domaine des hydrocarbures, même si celui-ci est emblématique. Il y a ce qu'on appelle les pénuries alimentaires, les pénuries des engrais. Tout cela est constitué et démarré avec la volonté des Américains de mener des sanctions contre le monde entier. Actuellement, 80% des peuples de la planète sont sous embargo américain. Ce n'est plus supportable et ce ne sera plus supporté.
Merci Monsieur Luc Michel, merci aussi de votre expertise. Pour conclure, Monsieur Philippe Hugon, quelques mots pour conclure sur les derniers mouvements du côté occidental. On a vu Monsieur Macron partir aux États-Unis, on a vu Biden mettre en place un sommet africain à la dernière minute. Est-ce que ce sont des réactions face à la russophobie, au fait qu'il y a donc ce nouveau pôle qui est en train de se construire, mais de manière extrêmement exacte, c'est-à-dire avec une nouvelle monnaie, un nouveau système bancaire, des assurances pour suivre les marchandises, notamment également le fameux train de la route de la soie. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois concernant cette nouvelle polarisation ?
Je pense qu'on peut attendre une très grande instabilité
Et moi, je dirais que le monde occidental a eu l'habitude de gérer la planète, entre guillemets, depuis une cinquantaine d'années. L'arrivée une nouvelle alliance entre la Chine et la Russie va remettre un petit peu les choses d'aplomb et va rééquilibrer une situation qui était totalement à l'avantage des États-Unis. Donc ça, sur ce plan-là, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose qu'il n'y ait plus qu'une seule monnaie qui soit la monnaie universelle qui était le dollar. Eh bien, moi, je suis très content que cette bipolarisation se mette en place. Ça va rééquilibrer une situation qui était exclusivement, à l'avantage des Américains, et ça va rééquilibrer ce monde qui malheureusement, aujourd'hui a du mal encore à trouver sa voie, et on peut le voir notamment dans de nombreux conflits, que ce soit des conflits économiques ou de véritables conflits déclenchés par un certain nombre de pays, et puisque les États-Unis ont énormément de mal à accepter qu'il y ait un deuxième pôle, si je puis dire, un deuxième pôle financier à travers le monde, et c'est une très bonne chose, ça rééquilibrera la situation. Politiquement, ça permettra, je pense, de stabiliser un certain nombre de pays, et ça prouvera surtout au monde que les États-Unis ne sont pas les seuls à pouvoir imposer un certain nombre de lois économiques, de lois financières, et moi je trouve ça très positif, même si ça va malheureusement nous contraindre à une certaine instabilité, du moins pendant quelques années, le temps de retrouver un certain équilibre.
Merci beaucoup Monsieur Philippe Hugon, c'est là que je remercie nos experts, donc je rappelle Monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre, journaliste, et Monsieur Luc Michel, géopoliticien. Je vous remercie pour votre expertise, je remercie vous auditeurs de nous avoir écoutés, suivez-nous sur nos différentes pages de réseaux sociaux, notamment Telegram, VK et Twitter. Je vous dis à bientôt pour un nouveau débat. Aujourd'hui, c'était le sujet de la Russie, de la démondialisation et de la nouvelle polarisation qui est en train de se créer. À très bientôt pour un nouveau sujet du débat.
De l'éloquence est le plus célèbre recueil de sermons, lettres, exégèses et récits attribués à l'imam Ali, béni soit-il. Il a été recueilli par Sharif Razi au Xe siècle. Connu pour son contenu éloquent, il est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature dans l'islam chiite, après le Coran et les hadiths prophétiques. Dans cette 31e édition dédiée à la voix de l'éloquence, nous vous présentons une maxime du successeur du prophète, premier imam des musulmans, l'imam Ali béni soit-il. Quand nous avons un droit, nous exigeons qu'il nous soit donné. Sinon, nous monterons à dos de notre monture et nous irons le chercher nuit et jour. Dans cette maxime de la voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il souligne l'importance du droit et de son recouvrement pour chaque individu qui considérerait la privation de son droit comme une injustice. Ceux qui font de l'oppression et de l'injustice ne prospéreront jamais. Ceci est une promesse de Dieu le Très-Haut dans le Coran. cela signifie qu'ils n'atteindront jamais le succès dans ce monde, le succès dans son véritable sens. Ils feront également face aux conséquences de l'injustice dans l'au-delà. Ils échouent donc dans les deux mondes. L'oppression et l'injustice signifient que les choses ne sont pas mises à leur place. L'injustice est tout ce qui est fait contre les lois de la perfection de l'âme, aussi bien que ce qui est fait contre les autres en les privant de leurs droits. Cela inclut les notions comme la violence, la tricherie, les détournements de fonds, les abus et tout ce qui peut nuire à autrui. Un oppresseur et un injuste sont ceux qui ne sont pas reconnaissants pour les bienfaits reçus de Dieu et qui ne se considèrent responsables envers personne. Le prophète de l'islam dit « Faites le bien et renoncez au mal ». L'injustice est de trois sortes. En premier lieu, l'injustice qui n'est pas pardonnée, comme associer quelque chose à Dieu. À ce propos, Dieu a dit « Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. » Deuxièmement, l'injustice qui est pardonnée. Par exemple, l'injustice que l'on commet contre soi-même. Et troisièmement, c'est l'injustice qui n'est pas pardonnée. Il s'agit de l'injustice que l'on fait subir à autrui. L'injustice détruit l'individu aussi bien que la société. Il endommage le système qui doit régner sur le monde. Dieu Tout-Puissant a créé un système et des lois afin que la vertu et la paix prédominent. Les humains violent ces lois et leurs vices incontrôlés engendrent le désordre dans la société. L'injustice a d'énormes répercussions sur la société. Les humains deviennent incapables de tirer le meilleur parti de leur potentiel à cause de l'injustice qu'ils subissent de la part des autres. L'oppression a également propagé la corruption sur Terre. C'est pour cela qu'il est fermement condamné par l'islam. De nombreux versets du Coran parle sévèrement des injustes. Dieu dit « Et ne pense point que Dieu soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. » Le Coran dit aussi « Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. » Dans le sermon 215 de la Voix de l'éloquence, le vénéré imam Ali béni soit-il, premier imam des chiites, dit « Je préfère passer la nuit en éveil sur les épines piquantes que de rencontrer Dieu et son messager le jour du jugement dernier en tant qu'oppresseur envers quiconque et en tant qu'usurpateur de quoi que ce soit des richesses de ce monde. Par Dieu, si on me donne les sept continents, avec tout ce qu'il y a sous leurs cieux, pour que je désobéisse à Dieu en extorquant la croûte d'un grain d'orge à un fourni, je ne le ferai jamais. » L'injustice est le résultat de l'absence de croyance en Dieu et en l'au-delà. on ne craint pas d'avoir à rendre des comptes. Il y a également un manque de contrôle des impulsions des désirs matériels. L'avidité pour la richesse et le pouvoir domine l'âme et aucune limite n'est respectée quant à la réalisation de ses désirs. Une telle personne ressemble davantage à une bête sauvage devenue incontrôlable. L'histoire de Karbala donne un exemple sans précédent de lutte contre l'injustice. Cela montre aussi comment ceux qui sont injustes ne réussiront jamais. Finalement, c'est le petit groupe de personnes déterminées qui a défendu la justice qui réussira.
Mm-hmm.